au plaisir d'insolence.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'émission qui prend le temps de parler littérature.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Au risque d'insolence, l'émission qui prend le temps de parler littérature. Aujourd'hui, notre invité pour son coup de cœur et ses coups de cœur est Dominique Fernandez, académicien français bien entendu, qui est agrégé d'italien. Bonjour Dominique Fernandez.
Bonjour.
Alors, vous abandonnez l'Italie pour la Russie.
C'est... Je ne suis pas fixé à l'Italie comme une mouche au miel. Il y a beaucoup d'autres pays que j'aime.
Dont la Russie. Donc, vous avez publié un dictionnaire amoureux de la Russie. Vous avez publié plusieurs livres récents sur Saint-Pétersbourg.
J'ai publié un livre sur Eisenstein autrefois. Enfin,
oui.
Pour moi, la culture russe, c'est la plus importante au monde.
Et alors, dans cette culture russe, apparemment, c'est Tolstoï qui est le plus important au monde.
Et Tolstoï, c'est le plus grand romancier, pour moi, qui ait jamais existé.
Alors, vous préparez, je crois, une biographie de...
Non, pas une biographie, surtout pas. Il y en a des quantités d'excellentes, dans celle de Troya. Non, je prépare un essai sur, justement, lire. Qu'est-ce que c'est que lire Tolstoï aujourd'hui?
Alors, qu'est-ce que c'est que lire Tolstoï aujourd'hui?
D'abord, c'est lire Tolstoï, relire, et c'est éblouissant. Moi, j'ai relu Guerre et paix pour la troisième fois. C'est à 2000 pages. C'est le plus grand roman jamais écrit. C'est avec une évidence, une ampleur.
Est-ce que le film reste à tourner?
Écoutez, je ne sais pas. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça. C'est tellement réducteur, oui. Le cinéma, par rapport à un roman comme ça, qu'il y aura des belles images, des balles, tout ça. Mais ça n'a aucun intérêt.
Même Audrey Hepburn, même
Mel Ferrer. Ça n'a aucun intérêt, tout ça. C'est nul à côté. Enfin,
Alors, dites-nous pourquoi. Dites-nous justement quelle est la... Enfin, pas en deux mots, vous avez le temps. Donc, oui. D'abord, pourquoi... D'abord, comment vous avez découvert Tolstoï et quand, au fond?
Quand j'avais 15 ans, j'ai lu Guerre et paix en 3 jours et 3 nuits. C'est un âge, et à l'époque surtout, les enfants lisaient. Je ne connaissais rien de rien, j'avais très peu lu évidemment. Et j'ai lu, je me rappelle très bien, c'est pendant les vacances, en 3 jours et 3 nuits, j'ai dévoré Tolstoï, Guerre et paix. Et depuis, c'est le modèle incomparable de toute littérature romanesque.
Bien sûr, dans les tartes à la crème des oppositions, on oppose toujours les dominicains, oui, aux jésuites et les tolstoïesques,
oui,
aux dostoïevskiens. Pourquoi tant d'amour pour Tolstoï et pourquoi finalement, non pas votre désintérêt pour Dostoïevski, je suppose, mais pourquoi y a-t-il vraiment ce clivage finalement,
cette opposition? Après, j'ai lu Dostoïevski, oui, quand j'avais 20 ans, que j'ai préféré à Tolstoï. Je crois que quand on est jeune, on préfère Dostoïevski à Tolstoï parce que Dostoïevski, c'est l'absolu, c'est le paroxysme, c'est la passion, c'est l'outrance, comme on est quand on est très jeune. Mais quand on est moins jeune, et nettement moins jeune, qu'est-ce qu'on préfère? C'est ce qui est juste, ce qui est la vérité, c'est juste. Et je trouve que l'avantage, on ne fait pas d'explication, mais ce que j'aime dans Tolstoï, c'est la justesse absolue. Il y a un seul écrivain auquel je peux comparer, c'est Homère. Quand même le plus grand des écrivains. L'Odyssée, c'est sublime parce que tout est dit sur un ton juste. Vous ne pouvez pas contester. Dostoïevski, c'est passionnant, c'est puissant, mais c'est outrancier, c'est excessif. Ces gens qui pleurent, qui crient tout le temps. Vous sentez la marque de l'écrivain là, chez Dostoïevski, qui s'impose. Tolstoï.
Anna Karenine pleure beaucoup.
Non, Tolstoï, c'est pas la question. Les personnages pleurent parce qu'on pleure dans la vie. C'est Dostoïevski lui-même qui pleure, qui s'agite, qui trépigne. Tolstoï, c'est juste. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'il y a dans la vie, tout ce qu'il y a de bien, de mal, l'amour, la mort, la trahison.
Est-ce que c'est celui chez vous, qui aimait l'opéra et la musique aussi? Parce que juste est un mot qu'on emploie peu en littérature.
En opéra, ce n'est pas le juste, oui, qu'on cherche.
Oui.
C'est l'émotion.
En musique.
Je trouve que, en littérature, moi, ce qui est vrai, c'est pour ça que j'aime Stendhal, je trouve que c'est le plus grand écrivain français, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui sonne juste. Et surtout, chez Tolstoï, ce qui est beau, c'est que vous ne sentez pas l'auteur. Ça pourrait être anonyme, à la rigueur. Comme Homère, exactement. Homère, on ne sait même pas qui c'est, on ne sait même pas s'il a existé. Il n'y a pas d'ego d'auteur. Il vous raconte les choses, il a un œil extraordinaire et il vous peint les choses comme elles sont. Et ça, c'est rare. En littérature, c'est rarissime.
Oui, pourtant, vous vous êtes souvent intéressé à la vie des gens, des auteurs en rapport avec leur œuvre. Par exemple, dans Eisenstein, vous me direz,
oui,
c'est le cinéma.
Oui, bien sûr, mais bon. Vous avez fait une psychographie de Tolstoï. C'est un homme, il est passionné, il n'y a pas que sa femme, c'est extraordinaire. Mais quand il écrit ses grandes œuvres, il y a cette espèce de souveraineté de l'anonymat. Vous voyez, c'est quelqu'un qui c'est comme un beau paysage, vous voyez. Vous ne savez pas qui l'a créé, il est beau en soi. Et sans référence à l'auteur.
Canal Académie.
Par rapport donc encore à Dostoïevski, je m'excuse, mais il semblerait que Tolstoï soit plus... Je ne sais pas comment dire, un mot qui ne soit pas stupide. On sait qu'il a inspiré Gandhi, on sait qu'il est plus idéaliste, disons. Il a des idées à défendre. Ah, voilà.
Dostoïevski aussi, alors.
Dostoïevski a des idées à défendre, mais Dostoïevski serait un peu plus métaphysique, si on peut faire des oppositions aussi
brutales. Ce n'est pas indifférent, c'est le ton, vous voyez. C'est outré, Dostoïevski.
C'est-à-dire quand je crois que c'est Raskolnikov qui s'incline en disant « Je m'incline devant toi, comme devant toute la douleur humaine. » Pour vous, ça vous paraît théâtral?
Non, mais ça, c'est son plus grand. Je trouve que Crime et Châtiment, c'est son seul vraiment très beau roman. Mais j'ai essayé de relire ceux que j'aimais tant autrefois, les Karamazov, les Possédés, mais c'est illisible aujourd'hui. C'est outré, c'est illisible.
Oh, la discussion avec le Starets aussi, mais quand
c'est
même,
assommant.
Non.
C'est outré. Enfin, moi, je trouve ça. Comme tout ce qui est outré, ça passe, ça vieillit.
Et les souvenirs de la maison des morts, puisque quand même...
Ça, c'est le plus beau.
Voilà, il a écrit quand même
ça, d'accord. Non, mais c'est un très grand écrivain. Oui. Crime et Châtiment, c'est un immense roman, c'est pas ça.
Alors que Tolstoï a beaucoup écrit, vous le dites à un moment vous-même, je crois, quelque part, vous avez visité, je crois, sa maison.
Oui, je suis allé au mois de mai, c'est bouleversant, il y a Stanislas Poliana, c'est extraordinaire.
Alors racontez-nous pourquoi.
Ah, ça, c'est la plus belle maison d'écrivain que j'ai jamais vue, j'en ai vu beaucoup dans le monde entier. D'abord, c'est la seule où il est né là, et pratiquement il est mort là, parce qu'il est mort, il est parti à 82 ans.
Ah, il est parti quelques mois auparavant.
Non, même pas, 15 jours, il est mort très vite. Donc... D'habitude, les maisons d'écrivains, c'est ou des maisons d'enfance abandonnées par la suite, comme Combourg, ou bien des maisons achetées par l'écrivain mûr qui s'enrichit, qui s'installe. Mais une maison héritée comme de sa famille, son grand-père, il est né là, il a écrit la plupart de ses livres là, et il a vécu toute sa vie là. Et donc ça, c'est déjà unique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre, cas. Il n'y a pas d'autre cas où les gens... Regardez Mauriac... Il est né à Malaga, mais il n'a pas vécu là. Il a vécu à Paris, il a écrit à Paris, il a l'été. Tolstoï s'est très vite retiré.
Colette a beaucoup changé de maison.
Non, il n'y a pas. Moi, vous savez, j'en ai vu des maisons en Russie, en Asie, en partout. C'est le seul cas de maison totalement où on est, on travaille et on meurt là. Voilà. Et ensuite, elle est intacte, surtout parce que quand il est mort en 1910... Sa veuve est restée encore 10 ans là, puis c'est passé directement à l'État qui en a fait un musée. Donc vous entrez là, vous voyez tous ces objets tels qu'ils étaient quand il a quitté cette maison, y compris le dernier livre qu'il lisait, ouvert à la page 259.
Qu'est-ce que c'était comme livre?
Et c'était les frères Karamazov. Et ils ne sont jamais rencontrés. Donc ils étaient à distance.
Oui,
c'est comme
pas,
les grands rivaux, c'est comme toujours.
Oui.
Mais. Alors c'est très émouvant parce que
vous
voyez tous ces livres usés, vous voyez ces objets, vous voyez. Et puis la maison est très belle, c'est un manoir, c'est pas du tout, pas très riche, c'est même pas un château. Et surtout au milieu de centaines d'hectares de bois, de prés, c'est extraordinaire.
Il y a toujours des abeilles.
Il y a des chevaux encore, des chevaux. Il y a des. C'est très beau la nature russe, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. C'est infini.
Et alors, dans Tolstoï, quel est un passage, par exemple, que vous pourriez lire à un enfant pour lui dire, nous pouvons vous donner le temps de le chercher, mais pour lui dire ce que vous aimez en littérature? D'abord, est-ce qu'il y a des très grands traducteurs? Parce que, bien sûr, vous n'allez pas me le lire en russe si vous me lisez un passage. Est-ce qu'il y a des traducteurs qui sont des très grands traducteurs, à votre avis, de Tolstoï?
Enfin, moi, je ne suis pas compétent, mais oui. Enfin, en tout cas, d'après le français, les premiers étaient très bons, les Bienstock, les oui. Alperine, Kaminski, du temps de vivant de Tolstoï.
Oui.
Et maintenant, là, ce qu'on lit dans la Pléiade, par exemple, c'est Mongo, Pascal, tout ça, ça me paraît très bon.
Donc, ça vous paraît respecter le...
Oui, c'est, ça,
parce
c'est
que c'est
très
important,
bon.
Je veux dire, c'est une traduction quand même.
Je ne crois pas que ce soit très... Oui. D'après les russisans, ce n'est pas très difficile à traduire.
Je vais vous laisser réfléchir, nous allons faire une petite pause musicale. Donc je vous laisse réfléchir sur le passage peut-être que vous choisiriez pour un enfant, pour quelqu'un qui ne connaît pas Tolstoï, un enfant ou quelqu'un qui ne connaît
pas Tolstoï.
Vous savez,
avant la pause, Tolstoï était pédagogue aussi, il avait fondé une école dans son Yasnaya Polyana. Il s'intéressait beaucoup à l'éducation des petits fils, des enfants de paysans, parce qu'à l'époque l'école était très précaire, j'imagine, et il a écrit des livres entiers pour les enfants. Il y a les livres de lecture, c'est-à-dire pour chaque jour, il y avait des lectures pour les enfants, tirées de contes, de fables, ou qu'il écrivait lui-même, des choses qu'il écrivait. Donc tout peut être lu par des enfants.
Oui, mais alors, ce qui vous tient à cœur et que vous aimeriez transmettre de votre amour de Tolstoï, mettons que je n'y connaisse rien, d'ailleurs, ce qui est vrai, au fond, je n'y connais pas grand-chose. Donc, pour me convaincre, moi, l'enfant qui est en moi, Dominique Fernandez, je vous laisse réfléchir au passage de Tolstoï et nous reprenons dans quelques minutes.
À la redécouverte du théâtre musical. Écoutez Christophe Mirambeau narrer les débuts de la comédie musicale avec Sacha Guitry, expliquer les talents de librettiste d'Albert Villemetz, revenir sur les inspirations de Charles Trenet en 1936, ou encore présenter l'opéra comique Véronique d'André Messager aux côtés du chef d'orchestre Jean-Christophe Spinozzi. À Broadway ou au Châtelet, rien n'échappe à Christophe Mirambeau, qui exhume des partitions fameuses et oubliées et vous fait entendre des extraits musicaux inédits. Ces émissions sont en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Dominique Fernandez, nous reprenons ici Elisabeth Antebi pour l'émission Au plaisir d'insolence. Je vous ai demandé juste avant la pause, donc, quel serait le passage que vous choisiriez pour me convaincre si vraiment j'étais... bête et bornée, ce que je suis quelquefois, pour me convaincre que Tolstoï est à lire ou à relire.
C'est très difficile parce que tout le Tolstoï romancier est admirable. Donc il n'y a pas une chose plus importante que l'autre. Mais si vous voulez, il y a une nouvelle qui est très frappante pour les enfants, imaginons que ce soit pour les enfants, c'est une nouvelle qui s'appelle Colstomère, c'est un cheval qui parle.
Colstomère,
c'est le nom du cheval. Et ben, c'est un cheval qui raconte sa vie. C'est tout à fait fabuleux, c'est pas très long, c'est 20 pages, je crois. Et ça, c'est un exemple.
Alors, je parlais de mon ignorance à moi, qui est immense. Est-ce que les Français, finalement, connaissent si bien Tolstoï ?
Ils ne connaissent rien. Il y a une chose absolument scandaleuse, c'est qu'il n'y a pas... Tolstoï a beaucoup écrit. Donc, il y a une part qui a vieilli, il est devenu un peu prédicant à la fin de sa vie. Vous savez, il a écrit sur la religion, contre l'État, contre... Enfin, des textes de prédication philosophique qui ont vieilli, évidemment, qui ont inspiré et grandi, justement, la non-violence, tout ça. Mais ce qui est merveilleux en lui, c'est le romancier, le nouvelliste. Tout est bon, là. Alors, il n'y a pas d'édition complète en français, ça n'existe pas.
Même dans la Pléiade.
Mais non, c'est absolument inouï. Il y a un volume où il y a roman et nouvelles, un seul volume. Là, je reviens d'Italie, j'ai acheté en italien l'édition complète des récits. Ça fait deux volumes type Pléiade. Donc des chefs-d'œuvre qui sont introuvables en français, certains jamais traduits, je crois, ou certains traduits du vivant de Tolstoï, c'est-à-dire il y a 100 ans, et plus jamais repris. Donc nous sommes totalement... Alors que Dostoïevski est complet dans la Pléiade, parce que ça a bénéficié justement de cet engouement qu'il y a eu entre les deux guerres, avec Gide surtout, qui a beaucoup contribué, et Tolstoï, on ne peut pas le lire.
Vous serez le Gide de Tolstoï.
Non, parce qu'il n'y a plus d'éditeur maintenant qui se lancerait là-dedans.
Qui sait, peut-être. Mais est-ce que Tolstoï aussi a inspiré des écrivains russes d'aujourd'hui ? Est-ce que la trace de Tolstoï, vous dites quelque part, Koulitskaya, je crois, s'en
immense.
Inspire un petit peu ?
Il y a d'abord le Sholokhov, vous savez, qui a le prix Nobel, qui est mort maintenant.
Le Don paisible, c'est ça.
Le Don paisible,
oui.
C'est un livre admirable. Alors, comme il était communiste, il est maudit maintenant, mais c'est ridicule tout ça. Enfin, je veux dire, c'est un très grand écrivain qui est très.
C'était
tout
un
à
peu
fait...
pompeux, non le
Pas
paisible.
Du tout, mais qu'est-ce que vous dites ? Vous me provoquez, là, je sais bien.
Bah,
mais
je sais pas,
pas du
oui.
Tout. C'est un très grand. Le Don paisible, c'est admirable.
Non.
Ensuite, il y a tous les écrivains russes doivent à Tolstoï, parce que c'est la vérité. Donc on ne pouvait pas, on peut se démarquer de lui en poussant un coin, en poussant quelque chose, mais il a marqué, il a beaucoup, beaucoup plus d'influence que Dostoïevski, qui n'a pas d'influence, qui est une chose à part.
Aksionov peut-être s'inspire peut-être plus de Dostoïevski, non ?
Pas du tout, la saga,
saga
Famille, c'est exactement la génération comme dans Tolstoï. Ah, oui. Grossman, Vie et Destin, trois générations, vous savez, l'écrivain anti-stalinien, c'est aussi tolstoïen. C'est, tous les grands écrivains depuis 100 ans, ça inspire, pas s'inspire, mais ils sont marqués par Tolstoï. C'est.
Alors, vous êtes aussi président, vous avez, de, je crois, des amis de Dumas, non ?
Dumas, oui.
Oui. Est-ce qu'il y a une... Vous qui aimez Dumas, donc, je oui. suppose, puisque vous êtes
Dumas
président
pas Tolstoï,
des amis avant. Dumas. Oui, alors, est-ce qu'il y a quand même... Ça m'a frappé, je me suis dit, tiens, c'est drôle à la fois d'aimer Tolstoï et de se passionner pour Dumas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... Sinon, de parents, voilà.
Non, non, franchement, je ne crois pas. J'aime beaucoup Dumas. Ça, c'est le roman d'aventure, c'est la vie. C'est... Mais ce n'est pas un grand artiste, Dumas. Tolstoï est un artiste immense. Vous avez un coucher de soleil par Tolstoï, mais c'est beau comme une toile de Monet. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est ça la différence.
C'est-à-dire, c'est un grand écrivain, quoi. Oui,
c'est un grand oui. styliste. Les portraits de Tolstoï, enfin, vous rappelez Anna Karénine ou le prince André, vous ne le voyez à jamais. Il y a une force visuelle chez Tolstoï extraordinaire. Il paraît qu'il avait un œil absolument comme perçant et qui restituait ce qu'il voyait.
Et aujourd'hui, alors dans la littérature russe, vous vous intéressez à beaucoup, beaucoup d'écrivains, parce que quand on lit le dictionnaire amoureux de la Russie, vous vous passionnez tout d'un coup pour Anna Akhmatova, bien sûr, mais ça c'était une poétesse, mais pour énormément d'écrivains et de cinéastes en ayant, il semblerait quand vous parlez d'Eisenstein, qu'il y ait une continuité presque d'écriture. Eisenstein écrivait beaucoup ses films d'écriture avec la littérature russe.
Oui, et Tarkovsky, qui est,
oui, et Tarkovsky.
Qui est plus récent, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui a beaucoup écrit aussi, qui est dans la ligne d'Eisenstein, qui a écrit aussi, qui était philosophe, écrivain.
Oui, car finalement, les films russes sont très écrits, ce qui est un peu différent.
Mais vous savez, il y a une chose, il faut dire, c'est que les Russes sont beaucoup plus cultivés que nous. C'est ça qu'on ne sait pas. On a une idée complètement fausse des Russes. Moi, j'y vais tous les ans, même deux fois par an. La culture joue chez le peuple russe un rôle qui est absolument incommensurable avec ce qu'il y a ici. C'était, j'ai un ami qui a épousé une Russe, la belle-mère est venue en France, une femme qui ne parle pas un mot de français, qui est comptable dans un hôpital. Elle connaît tous les classiques russes par cœur. Elle va l'hiver à l'opéra à Moscou. Elle va, vous voyez, la culture fait partie de la vie russe. Ici, il y a des gens qu'on appelle cultivés. Puis les autres, la grande masse, complètement, qui s'en fichent. Là-bas, tout le monde est cultivé.
Mais d'ailleurs, Tolstoï n'aimait pas la France, vous dites, à un moment donné.
Les Russes n'aiment pas la France, non.
Bon.
Dostoïevski non plus.
Catherine, la grande Catherine, quand même, aimait bien.
Oh, elle aimait bien, oui, mais ça savait très bien qu'il fallait moderniser. D'abord, elle n'était pas
Voltaire,
russe, elle était allemande.
Voltaire. Oui,
elle était allemande. Et ensuite, Dostoïevski disait que les Parisiens ont deux passions, c'est voir la mer et se rouler dans l'herbe, il se moquait d'eux, ce qui n'est pas faux.
Oui.
Et Tolstoï, non, il a été très choqué, il est venu à Paris deux fois pour faire des enquêtes sur les écoles, justement, parce qu'il est passionné pour la pédagogie. Et il est allé voir une exécution capitale à Paris, ça l'a horrifié, il s'est enfui vers la Suisse. Parce qu'il n'y avait pas la peine de mort en Russie, ça n'existait pas.
Oui, le Knout, ça ne devait pas être beaucoup plus
non,
drôle.
Mais il n'y avait pas la peine de mort solennelle avec la décapitation, comme on faisait. Non, mais ils n'aimaient pas, ça c'est leur... Non, les Russes, sauf Tourguéniev, finalement, qui vivait rue de Douai, là, côté de chez moi, là, n'aimaient pas la France.
Canal Académie.
Mais alors, pourquoi est-ce que l'envie, tout d'un coup, d'essai sur Dostoïevski vous est venue et non pas d'une biographie,
madame.
Mon Dieu, vous voyez, je fais sans cesse le lapsus.
Parce que depuis l'âge de 15 ans, j'ai une dette envers cet homme qui m'a inspiré toute ma vie. Vous savez, moi, je suis très...
Oui.
Eisenstein, j'adorais ses films quand je les ai découverts, aussi très jeune. En plus, donc, il y a ça, c'est une dette que j'ai. Et puis, la méconnaissance qu'on a en France de Tolstoï, justement.
Alors, dans votre recherche, justement, qu'est-ce qui vous a le plus étonné sur Tolstoï? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez? Parce qu'on découvre aussi des choses en écrivant, je suppose. Plein. Et sur soi-même et sur les autres.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui est le plus nouveau pour vous, bien sûr? Qu'est-ce que vous avez découvert sur Tolstoï et exploré par vous que vous ne pressentiez pas auparavant?
Vous savez, d'abord, tous ces textes que je n'avais jamais lus, parce que j'ai...
Ce que je vous demande, c'est un scoop, finalement.
C'est difficile à dire, vous savez, c'est tellement admirable et énorme qu'on découvre, quand vous relisez, de toute façon, n'importe qui, vous le redécouvrez, parce que vous lisez plus attentivement. Si vous voulez faire un livre, forcément, avec des plumes à la main, vous notez. Et je trouve que c'est extraordinaire la façon dont il a de décrire. Non, ce que j'ai découvert, si vous voulez, c'est dans sa vie, alors, c'est les rapports avec sa femme, qui est extraordinaire. Parce qu'ils ont été mariés 48 ans.
Il y a 14 enfants, je crois, non ?
14 enfants, oh là là. 13 ou 14.
Oui.
Et en se haïssant.
Ah bon ?
Ah oui, très vite.
Oui.
Mais lui était très bizarre comme homme. Hein. Il était pas sous son air serein, il n'était pas du tout serein.
Oui.
C'est-à-dire qu'il était contre la chair, ce qu'il appelait le sexe, alors qu'il se ruait sur sa femme comme une bête, absolument, et pas seulement sur sa femme. Et
les Russes ont beaucoup ça. Rasputin avait ça aussi. Il détestait le sexe tout en le pratiquant.
Oui, ça c'est très russe. Très russe. Ça,
oui,
très
oui.
Russe.
Oui.
Et puis, donc ils ne supportaient pas. Il y avait des frictions continuelles. Et vous savez, finalement, il est parti pour fuir sa femme à 82 ans, un peu trop tard, parce qu'il est mort d'une pleurésie comme ça. Mais c'est extraordinaire. Alors chacun tenait son journal. Intime.
Est-ce qu'il est bien le journal de Madame Tolstoï?
Oui, bien sûr. Il est très intéressant aussi. Elle crée très bien. Comme il y a aussi les filles, les fils, tout le monde a écrit dans cette famille. Et alors, les deux époux se montraient leur journal. C'est-à-dire qu'ils savaient très... ils écrivaient chaque jour et se montraient ce qu'ils écrivaient. Et alors, par plus, vous savez, ils prêchaient la pauvreté. Alors, ils disaient, aujourd'hui, je vais scier du bois avec des paysans, je vais faucher, etc. Et pour l'instant, sa femme, le même jour, écrivait « Oui, il va scier du bois, mais sa chemise est brodée par ses domestiques. Et puis, il y a 20 invités à table, c'est moi qui dois m'en occuper, enfin, etc. »
Ah, c'est très drôle, oui, le dialogue.
Elle montrait les contradictions de son mari. C'est-à-dire qu'il prêchait la pauvreté, mais malgré tout, il était riche. Il faisait partie, c'est comte Tolstoï, héritier d'une petit-fils du prince Volkonski. Il ne pouvait pas être pauvre, forcément. Et puis, il ne pratiquait pas toujours ce qu'il disait.
Oui, il ne s'est pas enfui avant l'âge.
Oui, mais
avant 15 jours, avant sa mort.
Mais c'était difficile pour lui. C'est plus facile de s'enfuir pour quelqu'un qui n'a rien, qui est un lambda à zéro,
oui, évidemment,
que Tolstoï.
Oui.
Canal Académie.
Mais alors, donc, c'est le dialogue avec Madame Tolstoï, c'est intéressant.
Ah, c'est intéressant, alors c'est passionnant.
Oui.
On a publié abondamment les journaux des uns et des autres, et on les met en parallèle, et c'est tout à fait extraordinaire. C'est un cas de conjugal absolument...
C'est assez rare, finalement, oui.
C'est rare que la femme écrive,
écrive
très bien aussi, parce que c'est une femme cultivée. Et à l'époque, vous savez, les gens cultivés étaient vraiment cultivés, c'est-à-dire qu'ils savaient écrire aussi. C'est tout à fait curieux, ça.
Alors aujourd'hui, donc, vous lisez toujours de la littérature russe ou...
Ah oui, je suis tout ce qu'on traduit, enfin on traduit pas mal.
Bon, et est-ce que pour vous, ce niveau de l'époque Pushkin, Gogol, enfin c'est pas tout à fait la même époque, mais enfin mettons tout ça dans le même sac, Pushkin, Gogol, Dostoïevski, Tolstoï, Tourguenieff, est-ce que c'est du même niveau ou de même nature même? Est-ce qu'il n'y a pas une différence de nature, à part peut-être Aksionov et Ulitskaya?
Mais c'est pas seulement russe, c'est comme en France, il n'y a pas non plus de Balzac ni de Flaubert. La littérature a complètement changé de nature aujourd'hui, est en voie de disparition, parce que...
Vous disiez vous-même qu'ils étaient plus cultivés en Russie, donc est-ce que ça compte
pour la littérature. C'est un pays en plein chaos, comme vous savez, en pleine mutation. Pour écrire des œuvres comme Tolstoï ou Dostoïevski, il faut avoir un énorme pays solide quand même, il faut avoir un public, il faut avoir... Alors, il y a beaucoup de jeunes écrivains très intéressants, mais c'est des fragments, je ne sais pas ce que ça va donner, évidemment, mais il est impensable qu'il y ait une œuvre de majestueuse comme Tolstoï ou Pouchkine, c'était impossible pour le moment.
Est-ce que pour vous, ce n'est pas une tentative désespérée d'écrire un essai sur Tolstoï? Vous dites vous-même que sans doute personne ne le rééditera complètement parce que personne n'osera, n'est plus éditeur.
Non, parce
que les gens ne lisent plus et n'ont plus le temps de lire. Donc, est-ce qu'écrire un essai sur Tolstoï en disant de le lire, bien sûr, est-ce que ça peut encore aider des gens aujourd'hui? Est-ce que ça peut encore les susciter?
Je pense que personne ne peut résister à Tolstoï si on le lit, si on n'a pas de préjugés. Il y a quand même beaucoup de lecteurs. Faut pas... La littérature actuelle... Elle est mauvaise, c'est pour ça qu'on ne la lit pas, hein. On a bien raison, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que Tolstoï, c'est une vieille barbe, ou je ne sais pas, enfin tout ça, démodé. C'est justement, ça ne se démode pas.
Voilà, est-ce qu'il y a des passages jeunes dans Tolstoï?
Tout est jeune, alors que Dostoïevski se démode, parce que c'est...
Oh non, vous exagérez quand même.
Mais non, parce que c'est... Tout ce qui est outré se démode, c'est une loi absolue, ça. Regardez les grands écrivains, c'est Flaubert, c'est Balzac, c'est... Les petits écrivains qui mettent leur moi en avant ou qui font des expériences...
Dostoïevski n'était pas un petit écrivain, quand même.
Je vous dis que c'est... Enfin, je dis mon sentiment. Hein.
Quand je pense que quand j'étais enfant, je me mettais sur le balcon pour attraper la phtisie galopante, je trouvais ça très beau, la phtisie galopante.
Non, mais il y a des choses qui sont... qui vieillissent, qui sont d'une époque, qui sont datées, qui sont... Tandis que, je ne sais pas, comme Ibsen, par exemple, c'était... C'est le comble du génie à la fin du siècle, 20e. C'est très démodé aujourd'hui. Tolstoï, ce n'est pas démodé, c'est comme l'Odyssée. Je veux dire, c'est comme la nature, ça ne peut pas se démoder. Un champ de blé.
C'est le champ du monde, oui. Enfin, voilà. C'est le champ de. D'ailleurs, vous dites à un moment donné très justement qu'il y a des écrivains, au fond, des villes et des écrivains des champs. Enfin, vous ne dites pas ça comme ça.
Oui.
Mais que Dostoïevski serait un écrivain plutôt de la ville, où on a des paroxysmes, des sentiments.
Non, mais lui, c'est oui. Saint-Pétersbourg, c'est...
Et ça, c'est très juste que finalement, dans les champs, le ton est de la nature. Pour décrire la nature, n'est pas le même.
Tolstoï est un homme qui est né en pleine nature, donc à 200 km de Moscou. Il n'aimait pas Moscou. Il a acheté une maison pour que ses fils puissent faire des études à l'université. Mais il détestait la ville, lui. C'est vraiment un homme des champs. Et d'ailleurs, son œuvre reflète l'ampleur de la nature russe. Alors que Dostoïevski reflète la convulsion d'une ville, d'une grande ville.
Il annonce les convulsions du XXIe siècle. Mais enfin, un autre débat. Mais c'est vrai que mon cœur est toujours pris par Dostoïevski. Alors voilà.
Non, Tolstoï décrit admirablement Saint-Pétersbourg dans Anna Karénine, par exemple.
C'est vrai.
Moscou.
Bien sûr. Bien, Dominique Fernandez, merci. Nous allons attendre cet essai qui va s'appeler. On ne sait pas encore.
Pour Tolstoï, je ne sais pas.
Soyons simples, Tolstoï, oui. Donc, cet essai sur Tolstoï, qui reste votre coup de cœur depuis vos 15 ans.
Et qui va coïncider, mais ce n'était pas voulu, avec le centième anniversaire de sa mort, parce qu'il est mort en 1910, et qu'on va donc célébrer le centenaire de sa mort en 2010.
Très bien, donc nous allons attendre 2010.
Vous savez que ça va être l'année franco-russe aussi, très importante.
Ah, d'accord, oui.
C'est-à-dire qu'il y a une année... de culture croisée, c'est-à-dire que la Russie va nous envoyer des spectacles, une grande exposition d'icônes les plus belles au Louvre, des spectacles, de la musique, et la comédie française va aller en Russie, et la France va aussi exporter. Donc il y aura un grand événement franco-russe, russo-français, en 2010.
Très bien, alors nous serons au rendez-vous avec votre livre Tolstoï, donc le coup de cœur de Dominique Fernandez. Dans Au plaisir d'insolence, merci.
Merci.
Colstomer est paru dans la Pléiade sous le titre Le cheval. Son élaboration a été assez longue et complexe dans la vie de Tolstoï, puisqu'il a achevé la nouvelle en 1864, après l'avoir conçue en 1856, c'est-à-dire qu'il a mis 8 ans à la finir. Qu'il l'a reprise en septembre 1885, et après sa confession et ses crises spirituelles. Donc, Colstomer a vraiment un rôle tout à fait étrange dans l'œuvre de Tolstoï. C'est l'histoire d'un cheval hongre-pie, qui est bien malheureux parce que Colstomer, ça veut dire double patte. Et il ne peut pas comprendre bien des choses. Et alors, il nous les explique en permanence. Alors, il est malheureux pour trois raisons. Parce qu'il est pie, c'est-à-dire la couleur de sa robe, parce qu'il est hongre. Et puis surtout, il ne s'appartient pas à lui-même, comme il va le découvrir. Alors, je vais lire un tout petit passage où on le découvre Pi, et puis où il ne s'appartient pas comme il le découvre lui-même. Tous ces gens riaient à cause de ma robe Pi et me donnaient toutes sortes de surnoms étranges. Ni moi, ni même ma mère ne comprenions le sens de ces appellations. Jusqu'à ce jour, il n'y avait encore jamais eu de cheval Pi dans ma famille. Et nous ne nous doutions pas que ces tâches fussent répréhensibles. Un peu plus loin. Ma robe tachetée qui déplaisait tellement aux hommes plaisait beaucoup aux chevaux en revanche. On m'entourait, on m'admirait, on me faisait fête. Je commençais déjà à oublier le mécontentement des hommes et me sentais heureux. Mais je connus bientôt le premier chagrin de mon existence et c'est ma mère qui en fut la cause. Quand vint le dégel, quand les moineaux se mirent à pépier sous les auvents et que l'air se fit doux, ma mère commença de changer d'attitude à mon égard. Alors je vous laisse découvrir pourquoi sa mère change d'attitude à son égard. Puis il découvre qu'on parle de mon poulain, de mon cheval, et il est très étonné. Et il dit « Ces mots m'avaient produit une profonde impression. Je ne cessais d'y réfléchir. C'est beaucoup plus tard seulement, après avoir entretenu avec les hommes les rapports les plus divers, que je compris la signification qu'attachent les hommes à ces mots. Voici quelle est cette signification. Ce n'est pas d'après les actes, mais d'après les paroles, que les hommes se dirigent dans la vie. Ce qu'ils apprécient, ce n'est pas tant la possibilité de faire ou de ne pas faire quelque chose, que la possibilité de prononcer au sujet de différents objets certains mots dont ils sont convenus entre eux. Ces mots, qu'ils considèrent comme très importants, sont « mon »,« ma », »,« mais ». Ils les appliquent aux êtres, aux objets, même à la terre, aux hommes, aux chevaux. Et ils sont convenus entre eux qu'un même objet ne pouvait être appelé « mon » que par une seule personne. Et celui qui, conformément à ce jeu, dit « mon » du plus grand nombre d'objets possibles, est considéré comme le plus heureux. Pourquoi est-ce ainsi, je l'ignore, mais c'est ainsi. Naguère, je pensais que cela était lié à quelque avantage direct, mais je me trompais. Il y a des gens qui disent de la terre « ma terre », et cependant, ils n'ont jamais vu cette terre et ne l'ont jamais parcourue. Il y a des gens qui prétendent que d'autres hommes leur appartiennent. Ils ne les ont jamais vus, et le seul rapport qu'ils entretiennent avec eux consiste à leur faire du mal. Il y a des hommes qui appellent certaines femmes « ma femme »,« mon épouse ». Or, il se trouve que ces femmes vivent avec d'autres hommes. Le but des humains ne consiste pas à accomplir ce qu'ils considèrent comme « bon », mais à appeler « mien » le plus grand nombre d'objets.